France Culture.
Et vous écoutez France Culture. L'incompréhensible n'est pas de vivre ici, que d'y vivre à la longue sans être saisi de la nécessité de tout ravager, de tout brûler jusqu'aux fondations. Sylvain Kermissi. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, en pleine balade sauvage ce soir, grâce à Lise et Joshua, les héros des voies souterraines, dernier roman Plomb de Sylvain Kermissi, une des rades létales et plombées, narrée avec la sécheresse et l'urgence d'une série B d'Edgar G. Ulmer ou d'un polar de Dashiell Hammett. D'Hammett, ou plutôt de celle qui en fit un auteur français, il sera également question avec Natacha Levé et de ses Dames de la série noire, éditées par la Maison Mère. Chronique en second temps d'émission signée Esther Teilhard et puis évocation du très beau roman d'Élise Lépine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre. Bonsoir Sylvain Kermissi.
Bonsoir.
Vous ne nous dérangez jamais pour rien, puisque c'est votre quatrième roman. Les trois précédents étant quand même des trous noirs littéraires absolus. On va avoir quelques précisions sur ce qu'ils racontent et leurs titres et où ils sont parus. En tout cas, ce soir, je dirais la fête continue avec Les voies souterraines, qui est quand même, je crois, le roman le plus noir et le plus noirissime de cette rentrée, donc chez Plomb. Bonsoir Aurélien Masson.
Bonsoir.
Vous êtes là pour quoi ?
Je suis là pour accompagner Sylvain.
Ah, puisque vous êtes aussi coupable, non seulement vous êtes l'éditeur de Benjamin Dierstein, dont les trois tomes, Bleu, Blanc, Rouge,
oui,
atomisent littéralement le marché du polar et du thriller historique, mais en plus de ça, vous vous octroyez le droit d'éditer Sylvain Kermissi chez Plomb, l'éditeur du Général de Gaulle.
Père feu de tout bois.
Bonsoir à vous. Natacha Levet, bonsoir.
Bonsoir.
Dernier passage à Mauvais genre, c'était pour une histoire du polar français. Et là, c'est pour les femmes de la série noire. Il y a donc des femmes à la série noire, dites-donc.
Oui, il y en a plus qu'on ne pourrait penser.
Vous êtes sûr ? C'est sûr, pas sûr, Auguste sûr. Le Breton, le Simonin, c'est pas une femme.
Elles sont là depuis 1950, en réalité. Et
effectivement, on les connaissait un peu comme ça, mais grâce à vous, on connaît maintenant de manière précise et détaillée non seulement les femmes qui ont fait la série noire, mais les autrices qui ont publié à la série noire. Bonsoir Élise Lépine.
Bonsoir François Angelier.
Les courants d'arrachement chez Grasset.
Voilà, c'est sorti de vous. Depuis ces deux mois.
C'est de vous.
Premier roman.
Un premier roman, parce que Mauvais genre, c'est une école littéraire aussi.
Voilà, j'ai beaucoup appris en écoutant les écrivains et
en écoutant Mauvais genre.
Ici, et j'ai fini par décider de...
Voilà, il y a eu Carne d'Esther Teilhard, bonsoir.
Bonsoir François.
Vous allez nous parler de quoi ce soir, Esther ?
Ah, de quelque chose qui nous menace tous, La bêtise, par Robert Musil.
Absolument.
Petit essai, excellent. Alors.
Et puis donc, avec Élise, on évoquera Les courants d'arrachement, votre premier roman. Et avant tout cela, je rappelle quand même que sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, notamment Mauvais genre FC, eh bien, vous pouvez entendre les définitions du mauvais genre par nos invités et vous tenir au courant de notre riche actualité. Mais avant cela, j'ai confronté Laurent Polleret à la nuit noire et voilà ce que cela a donné.
Thank you.
Voilà, ben on n'est jamais déçu. Hein. On demande à Laurent Polleret un condensé, un élixir de nuit noire, et voilà ce qu'il nous sert. On pourrait écouter, bien évidemment, dès demain. Ceci, ne me demandez pas avec quoi c'est fait. Lui seul sait, il pourra éventuellement vous le dire, mais le cocktail est très, très, très personnel. Sylvain Kermissi.
Alors,
Détail, bibliographie par Élise Lépine. Alors, il y a Pandémonium pour lequel vous étiez notre invité, qui était paru aux éditions Les Arènes, dans l'excellente collection Equinox, et Mais encore, chère Élise.
Eh bien, moi, j'ai découvert Sylvain Kermissi en 2014 avec Hors la nuit, qui était un texte dont Aurélien Masson, à l'époque, m'avait parlé.
Aurélien Masson,
il est partout, donc c'était à la série noire, et il m'avait dit, écoute, j'ai un premier roman absolument incroyable, complètement dingue. Et c'est vrai que j'avais lu ce texte qui raconte l'histoire d'un homme obsédé par une femme enceinte et on est qui s'adresse. C'est un roman écrit au tu qui est vraiment dont je me rappelle encore bien et dont j'ai encore des souvenirs vifs alors que ça fait quand même plus de 10 ans que je l'ai lu. Plus pour les impressions qu'il m'avait prodiguées, en même temps d'une plume très forte, d'une écriture très rythmée, et quelque chose d'obsessionnel avec des volutes, des courbes, des spirales dans le texte, et ce côté obstiné du narrateur avec vraiment des obsessions fortes. Et puis, pendant quelques temps, on ne vous voyait plus, 4 ans, et puis en 2018, Requiem pour Miranda, où là vous arrivez avec un texte d'une noirceur absolue, qui raconte l'histoire de Miranda, qui est une femme enlevée dans une zone complètement rurale, très désertique, montagneuse, où elle vit une vie assez idyllique avec son mari et son bébé, et puis qui se retrouve prisonnière dans une geôle par des hommes un peu mystérieux qui l'ont enlevée pour lui faire subir des choses assez abominables, qui ont tué son mari et son bébé. J'ai le souvenir d'une scène de ce petit bébé dans un tas d'ordures. Enfin, moi, j'ai lu ça, j'étais jeune mère ou enceinte, je sais plus, mais en tout cas, et c'était pareil, la puissance était là.
Respirez par le ventre, chers auditeurs.
Quelque chose, mais par contre, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était l'extrême noirceur de cette histoire, qui n'avait aucune poche d'air, aucune enquête, aucune rédemption ou sauvetage possible pour ce personnage. Et on était vraiment prisonnier d'une quelque chose de terrible. Et là, je m'étais dit, il fait du roman noir. Et puis, il y a eu Pandémonium en 2021. Et là, on était dans de la série Z, quoi. On est dans un cinéma, toujours englouti avec vous dans des univers tentaculaires, dans des lieux qui semblent respirer, qui semblent exhaler comme ça des derniers soupirs un peu pleins de miasmes et de germes inquiétants. On est dans un cinéma où se tramaient des choses, c'était sur 3 étages, je crois, enfin, avec, on descendait dans les profondeurs de cet enfer où se côtoyaient des tordus, des obsédés, des gens étranges. En même temps, il y avait plus de lumière et plus de respiration que dans Requiem pour Miranda. Et il y avait une espèce de malfrat, de personnage étrange, de prophète aussi, qui prêtait sa voix. Enfin, c'était vraiment un cœur de voix étrange qui s'élevait comme ça, et un lieu qui nous embarquait. Et là, je me suis dit, de nouveau, on est face à un grand écrivain de roman noir qui vraiment ne marche pas dans les sentiers battus. Et puis, vous revenez donc avec ce nouveau livre, Les Voies souterraines. Et dès le titre, je me suis dit, on va retrouver Kermissi là où il est bon, c'est-à-dire dans des lieux auxquels il va, d'une façon probablement très sombre, donner une âme, probablement très sombre aussi. Et c'est ce qui se passe avec ce duo, donc Lise et Joshua, qui se rencontrent, qui sont deux marginaux, qui tous les deux sont en rupture avec leur famille, et pour les deux d'ailleurs une rupture extrêmement brutale, voire terriblement violente, et qui se reconnaissent, quelque chose en eux dialogue entre eux, et ils emménagent ensemble dans un hôtel des Cati, dans ces lieux où traînent des migrants, des marginaux comme eux, et ils vont s'aimer, mais s'aimer d'une façon très particulière, et chacun va révéler à l'autre, être un genre de miroir de la violence qui peut être en lui, en elle, et ils vont finir par presque se confondre, ou en tout cas se presque fusionner ou muter. Il y a quelque chose de l'ordre de la mouche cronenbergienne. Et j'ai beaucoup aimé ce texte aussi, qui ne laisse de nouveau pas trop de place à l'espérance, qui est plein de violence, parce que les deux vont se lancer dans une cavalcade criminelle dans les rues de Paris. C'est encore une fois un roman qui montre, Sylvain Kermissi, que vous êtes une voix singulière et importante du roman noir français.
Sylvain Kermissi, réaction à cet éloge.
Merci beaucoup. Effectivement, vous faites le point sur les lieux que mes personnages traversent et sont très importants. Ils sont à l'image de ce qu'ils sont. Littéralement, c'est comme s'ils étaient condamnés à hanter ces lieux. En l'occurrence, dans celui-ci, les voies souterraines, c'est une espèce de zone périurbaine, coincée entre une ville d'un côté qui incarne pour eux tout ce qu'ils n'ont pas, finalement, et au-delà du périphérique, qui est un motif important du roman, qui sert de frontière, des terrains vagues où finalement errent des fantômes qui sont dans un processus de dissolution plus avancé encore, qui n'ont même pas de corporalité, c'est des ombres qu'on devine. Donc ces personnages, mes deux personnages, sont coincés entre ces deux zones, et à la fois très... Ce qui les motive finalement, c'est de ne pas finir comme ces ombres de l'autre côté du périphérique, d'aller chercher, d'aller par la force, par la violence, un peu de corporalité, un peu de chair, au sein de ce monde qui les rejette. Donc deux marginaux pour le coup.
Et vous parlez d'ombre au-delà du périph, mais c'est presque des embryons au-delà du périph. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, vous parlez du périphérique comme d'une zone matricielle
exactement.
Qui berce. On a presque l'impression d'une forme de placenta où d'un côté on se nourrit, de l'autre on est affamé. Et le corps de la femme et de la femme enceinte chez vous, ou de la femme ayant enfanté, et du cordon ombilical encore accroché ou coupé violemment, c'est quelque chose de très important dans votre littérature, et on le voit là presque incarné en forme de paysage. On a presque l'impression d'une femme allongée et de personnages qui vont naître ou qui veulent naître ou qui vont pousser leur chemin ou qui vont peut-être être mort-nés. Qu'est-ce qui se passe avec cette figure
c'est très juste, je pense qu'un... Pardon, un terme effectivement amniotique, c'est fait que l'atmosphère est très amniotique et mes personnages effectivement comme s'ils n'étaient pas encore tout à fait nés ou en tout cas leur naissance et enfin quelque chose ne s'est pas enclenché dans leur existence, les condamnant à hanter les lisières et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de mes personnages, ceci comme le personnage principal de Hors la nuit ou et même de Requiem pour Miranda, finalement, qui sont deux tueurs, aussi brutaux soient-ils, ils manquent d'essence. Et finalement, dans Requiem pour Miranda, effectivement, ils torturent des victimes, pensant y trouver une forme d'existence, pensant y trouver une satisfaction, qu'ils ne trouveront jamais. Donc on retrouve ce côté très amniotique, ouais. C'est des personnages qui ne sont pas tout à fait incarnés, effectivement, qui sont entre d'un pied d'un côté et le pied dans un réel, ce qui n'est pas suffisant. La différence avec les voies souterraines, c'est que mes personnages, effectivement, que ce soit Joshua est bancal, Liz est bancal, mais les deux vont effectivement trouver une forme d'équilibre.
À force, il devient le lieu qu'il hante. Il devient le grondement des roues, les échos diffractés par les arches noircies. Il devient le dédale étouffant de tunnels. Personne ne le voit quand il s'immisce dans la confusion des quais. L'adhésion confine à une forme d'épiphanie. La transgression devient alors possible. Le déclic est toujours le résultat d'un état intérieur. Joshua est un chasseur. C'est ainsi qu'il se définit. La chambre manque d'air. Elle se lève et tourne autour du lit. Elle défie son reflet dans le miroir. Petite fille, terne, effrayée. La lumière vire au noir et la surface vérolée ne réfléchira bientôt plus rien. Priant pour Joshua qu'il revienne vite, elle se décide à sortir de la chambre. Elle se perd dans les couloirs d'un pas silencieux. La poussière ondoie en scintillant dans la douche des plafonniers. Elle évite de cogner aux portes. Ce serait perçu inévitablement comme une invite sexuelle. Les hommes sont prévisibles, elle s'en doute. Elle descend au rez-de-chaussée, elle traverse le hall. Le gérant est massé derrière le comptoir. Il entr'ouvre ses yeux globuleux et l'observe d'un air concupiscent. Aurélien Masson, après vous qui, après avoir présidé aux destinées de la série noire, donc il connaissait tout du noir et de la noirceur en ses plus infimes nuances. Sylvain Kermissi, est-ce que c'est encore un roman noir? Est-ce qu'il ne faut pas inventer un nouveau mot? Je me souviens, on avait reçu Oliver Gallmeister pour sa collection Ultra Noir. Il s'agissait là, le récit explosait ou se dissolvait tellement la noirceur était là. Quoi, je veux dire, il n'y a plus de récit possible. Est-ce qu'on n'est pas avec Kermissi vers quelque chose qui ressemblerait à ça? Une noirceur telle qu'il n'y a plus de récit possible. Il n'y a plus de narration possible.
Totalement. Et ça, dès le début, hein, dès Hors la nuit. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'avec Sylvain, c'est une longue histoire. Il m'avait envoyé son premier manuscrit en 2003. Donc, je commençais tout juste vraiment à la série noire. Un livre qui s'appelait Lucas. Donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'étais un peu enfumé à l'époque. Mais je me souviens déjà que ça traitait de la folie, de la schizophrénie. Et quand je lisais les livres de Sylvain, 10 ans après, il revient... avec Hors la nuit, et quand je lis Hors la nuit, je vois bien que c'est pas du tout un polar, que c'est pas une série noire, entre guillemets. Et c'est l'époque où je faisais, avant de partir, des petites séries noires. On avait fait E4 de Frédéric Jacquot.
Souvenir ému.
Et dans le même format, on avait fait le livre de Sylvain. Et c'était une manière de, effectivement, comme tu dis, de dépasser le polar, c'est, on appelle ça on dit mauvais genre. Et donc, l'idée avec Sylvain, c'est d'exploser le genre. Il n'y a plus de genre. Et donc, voilà. Effectivement, ces livres-là, j'ai plutôt tendance, avec le recul maintenant, à essayer de les présenter à tout le monde. Parce que ça peut parler, ça peut autant déplaire à des gens qui aiment le polar qu'à des gens qui aiment une littérature dite blanche. C'est une littérature hors frontières, qui flotte. Et voilà, c'est comme une sorte de virus. Et moi, j'ai envie de le lancer un petit peu hors du monde du polar pour essayer de proliférer. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que, vu que là, maintenant, avec Plomb, on va faire du roman noir, mais on va faire des romans. Là, maintenant, quand on discute avec Sylvain, je vois bien que ça lui ouvre d'autres perspectives. C'est-à-dire que je pense que là, dans les livres à venir, la violence s'exprimera autrement que par la mort, que par la violence. Ça peut être des choses très très intimes. Bon, par exemple, je sais que je rêve d'entendre Sylvain me parler de l'enfance. Quand je lis le personnage de Lise, la manière dont il parle d'elle, gamine, la relation d'amour que cette petite fille avec son père, hein, moi je chialais en lisant ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la noirceur de Sylvain, mais avant tout c'est une énorme tendresse. Et c'est pour ça qu'il y a de la noirceur. C'est parce qu'il y a beaucoup d'amour à donner et on est dans un monde tout fermé, tout cadenassé. Et donc, on a envie de tout casser, quoi.
Mais on cite un peu comme ça Bunyan Clyde, Sylvain Kermissi, parce que les deux personnages, évidemment, survivent par des activités que le pickpocket, l'assassinat, l'espèce de piège mortel dans lequel ils tendent pour des personnages qui incarnent le conformisme, une espèce d'opulence sociale et tout ça. Mais on est au-delà de tout ça. Je veux dire, on est presque dans une dimension mythique. Il y avait une phrase de Claudel à propos de Partage de Midi. Il dit que ces personnages sont condamnés l'un à l'autre. On a un peu cette impression avec Lise et Joshua, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés l'un à l'autre. Il y a une espèce de fatalité supérieure qui les approche beaucoup plus que, je dirais, un pacte de délinquance ou même un amour. Il y a une espèce de condamnation de destin.
Tout à fait. Et d'ailleurs, effectivement, Bonnie and Clyde, c'est pas vraiment le modèle que j'aurais en tête pour définir Joshua et Lise. Je pense qu'eux sont plus proches. Alors, si on reprend par exemple un grand film du Nouvel Hollywood de la même période, je pense qu'ils sont plus proches de Taxi Driver, du personnage de Travis. Alors, c'est deux personnes, mais c'est-à-dire
Travis Bickle, donc joué par De Niro,
et De Niro, exactement.
Taxi et Jodie Foster.
Paul Schrader disait qu'il voulait écrire des personnages que l'on peut-être que l'on doit comprendre, mais que l'on ne peut tolérer. Et ils ont des points communs avec le personnage de Travis, donc joué par De Niro. C'est parce que chez Bonnie and Clyde, il y a une forme de vitalité, quand même, d'énergie, très américaine d'ailleurs, une énergie qui conduit au désastre. Eux, ils vont au désastre, mais c'est en sens inverse, parce qu'ils manquent d'énergie, ils manquent de vitalité. Donc c'est un peu différent. Et au fond, les crimes commis, sont des crimes un peu gratuits finalement, qui n'ont pas de justification, comme Trévise dans, finalement, il tue le proxénète, mais deux minutes avant il veut tuer le sénateur, si je me souviens bien. Ça aurait fait de lui un héros, enfin un monstre, et ça en fait de lui un héros puisqu'il tue. Ben, eux c'est un peu ça finalement, le meurtre, et c'est un peu ma vision du noir d'ailleurs, c'est que le meurtre est d'autant plus choquant qu'il est au fond gratuit ou absurde. Et eux baignent là-dedans, effectivement, mais oui.
Élise. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette violence et justement cet arbitraire du choix de la victime, les scènes notamment où ils sont dans le métro ou en ville ou dans des bars à choisir leur victime, m'évoquait un livre qui m'avait beaucoup marqué à la série noire, ça s'appelait La peau du papillon, Sergueï Kouznetsov. C'était un tueur en série qui sélectionnait ses victimes dans le métro et qui les faisait énormément souffrir. Et j'y repensais, parce qu'on voit là vos personnages qui sont, enfin les victimes du livre, qui sont un étudiant, une jeune fille sympa, et qui vont, leur vie va s'achever ce soir dans le sang. Dans Requiem pour Miranda, c'est pareil, on a le cœur saigne quand même pour ces gens qui menaient une vie tout à fait normale. Vous allez nous chercher aussi là où est la peur, hein, c'est-à-dire est-ce qu'un jour je pourrais me transformer par la bêtise et la folie de quelqu'un en victime et perdre tout ce que j'ai juste parce que quelqu'un en a décidé ainsi. C'est très cruel.
La réponse est oui.
La réponse est oui, mais est-ce que... Ouais, j'espère pas, touchons du bois. Qu'est-ce que ça incarne pour vous, oui, cette pulsion de tuer et cette cruauté, cet arbitraire du meurtre ?
Sylvain Kermessy.
Eh bien, ça commence déjà avant même les meurtres un peu gratuits. Enfin, en tout cas, choisis un peu au hasard, le soir, ils sortent et effectivement, ils vont aller sélectionner leurs victimes. Ça commence déjà par des cambriolages. Notamment, ils se mettent à cambrioler dans des quartiers riches, très bourgeois, dans des maisons, des grands appartements. Et Joshua a une prise de conscience, puisqu'il se dit, voilà, moi je suis condamné aux marges. Enfin, il ne se le dit pas aussi clairement, mais c'est ce qu'il ressent, cette frustration très grande. Et il cambriole des appartements très bourgeois, des gens, une très vieille dame et une jeune femme. Et il se rend compte que le problème d'incarnation, il est valable aussi pour eux en réalité. Il se rend compte que non, c'est certainement pas là qu'il trouvera de quoi glaner un peu de chair. Puisque eux en face ont tout réussi et pourtant ils sont au fond un peu comme lui. Et du coup, ça ne fait qu'alimenter sa frustration, donc sa pulsion mortifère. Et les personnages, les trois victimes en l'occurrence, enfin, je ne vais pas trop divulguer, mais les trois victimes choisies ensuite sont trois figures. Donc l'étudiant qui se prépare à une vie brillante, le riche golden boy qui sort de la city, enfin l'équivalent, et enfin une femme qui est plus qui est très ancrée, qui est très affirmée. Et donc c'est, oui, c'est la pulsion de meurtre, c'est de ravir par la force quelque chose que lui pense que ces gens-là ont. Évidemment, cela est condamné à l'échec puisque ça ne marche pas comme ça du tout. Et donc c'est une pulsion qui naît de la frustration et de la colère. Mais une colère, une espèce de frénésie froide, une colère qui ne s'articule pas vraiment en réalité. Et oui, d'où la gratuité de l'acte. Ça aurait pu être d'autres personnes, c'est eux, mais c'est voilà, ça m'intéresse beaucoup. Notamment dans le noir, ça m'intéresse beaucoup. C'est ce qui me touche énormément, c'est dès que le crime est moins et n'est pas déterminé en réalité.
Arrive le soir et la nuit. Entre 3 et 4 heures donc, l'impuissance disjoint de sa personne, tel un kyste. La décision naît dans son estomac, bien avant qu'elle ne soit accompagnée d'un geste. Les grandes révolutions jaillissent d'un détail, d'un rien. De la pluie martelant les gouttières, d'un moteur dans la rue, dans la forêt des cygnes, nous sommes tous morts ou vivants, morts et vivants. Il se redresse. Le langage en morse de l'eau l'emplit d'un calme profond, inattendu. Les pulsations artérielles cognent contre le bout de ses doigts. Sensation d'éveil, de renaissance, inédite par son intensité et sa plénitude, par sa totale lucidité. Il écoute le pas à pas de l'horloge, les échos étouffés de l'orage sur la terre noire. Naturellement, il se dit « J'en peux plus, c'est le bon moment. Ils vont payer. »
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà un extrait des Voies souterraines paru chez Plon, le livre de Sylvain Kermissien, nos deux invités ce soir. Dans Mauvais Genre, j'évoquais Edgar G. Ulmer au début, Détour. Il y a un peu ce côté série B américaine à l'os, là, comme ça, avec peu de budget, des acteurs totalement incandescents et carbonisés. Et des histoires comme ça, en cul-de-sac, en impasse. Il y a toujours ce souci quand même un petit peu du petit budget, mais qui fait faire d'énormes catastrophes, Sylvain Kermissi.
Oui, tout à fait. De toute façon, pour moi, le noir, c'est au fond, c'est avant tout c'est pas un genre pour moi, le noir, c'est un regard. C'est un regard porté sur le monde, un regard porté, bon. C'est un regard très désillusionné, très désabusé, qui effectivement effeuille le réel, les pluches, les feuilles jusqu'à l'os, blanchies à l'os. Et à l'aune de ce regard, effectivement, il n'y a pas d'issue. Clairement, il n'y a pas d'issue. Et l'économie de moyens, effectivement, fait que... Enfin, ça correspond un petit peu à ce... Mes personnages sont condamnés à faire du surplace, de toute façon, et à s'épuiser... Et voilà, mais effectivement, de toute façon, ce côté petit budget, effectivement, que c'était le cas également pour Hors la Nuit, peu de personnages, peu de moyens, voilà. Peu de lieux, en fait, tous un peu interchangeables.
Ah, je suis d'accord, rencontre oui. Pandémonium.
Vous qui êtes l'homme des grands spectacles, des tournages énormes,
ouais,
avec Bernstein, vous êtes aussi l'homme des budgets restreints.
Il y a un côté carpenteur chez Sylvain. Quand j'avais lu Pandémonium, je me disais, on croit que c'est Asso qui est mixé avec des pensées métaphysiques, quoi. Et il y a un côté, tout à l'heure, tu parlais d'antique. Mmh. Et il y a de ça chez Sylvain. Quand je le lis, je trouve ça, mais majestueux. Et c'est un travail de réduction. C'est-à-dire, tout le travail avec Sylvain, par exemple, avec Benjamin Dirschein, le travail, c'est pas un travail de réduction, c'est un travail au contraire, de lâcher les chevaux et de dire, mais allez, on y va, s'il faut 1000 pages de plus, on met 1000 pages de plus. Avec Sylvain, chaque fois, il arrive, parce que depuis le début, il fait des romans courts. Et à chaque fois, ça me fait rire, parce qu'à chaque fois qu'il arrive avec un nouveau roman, il dit, ouais, là, j'ai fait plus long. Mais en fait, c'est que c'est tellement percutant, c'est tellement... Il y a une expression de musique anglaise qui s'appelle le white noise, le bruit blanc, quoi. C'est tellement un bruit blanc qu'à un moment, on se dit, moins t'en fais, plus tu seras fort. Et donc Sylvain réduit.
Voilà un vieux truc miraculeux de découvert dans les infrabasses de la société contemporaine par Laurent Polleret. Alors, Natacha Levé, Les femmes de la série noire, avec une préface de la directrice de la série noire, Stéphanie Delestrée, Élise Lépine, puisque, effectivement, ce temple du virilisme, c'est en définitive largement, comment dirais-je, tenu en main par des dames.
Appuyer sur les femmes sans leur donner beaucoup de lumière, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce qu'on voit aussi en lisant cet essai très intéressant qui en fait montre à quel point la série noire a pu incarner ce cliché des femmes qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps et de le faire très bien quand les hommes ne savent faire qu'une seule chose. Et donc on voit qu'effectivement il y avait beaucoup de figures féminines qui étaient à la fois secrétaires, traductrices, journalistes par ailleurs, parfois même autrices, et puis traductrices, mais enfin elles faisaient mille choses quoi. Les agentes aussi qui avaient des rôles importants. Enfin, on voit à quel point il y a une main féminine qui est indispensable à la série noire. Et en même temps, moi la première, si on me dit, cite-moi une femme que tu as lue ou que tu connais dans l'histoire de la série noire qui a joué un rôle important, je suis pas vraiment capable de sortir une réponse rapide à cette question. Donc, qu'est-ce qui a motivé ce livre? Est-ce que c'est peut-être le constat de, non pas d'une absence, mais plutôt d'un manque de lumière?
Oui, c'est vraiment le manque de lumière. Alors, c'est une initiative de Stéphanie Delestrée qui, pour les 80 ans de la collection, voulait avoir un angle d'attaque un petit peu différent de celui qui avait été adopté avec la Somme parue à l'occasion des 70 ans. Très bel ouvrage, avec des documents formidables. Mais il y avait cet angle mort des femmes de la collection. Donc elle nous a contactés avec Benoît Tadier pour qu'on
salue.
Voilà, absolument. Pour qu'on réfléchisse ensemble. Sachant que, bien sûr, aujourd'hui, on connaît quand même pas mal d'autrices, même si elles restent minoritaires dans la collection. Mais il y en avait déjà à cette époque-là. Et surtout, comme la collection avait la réputation d'être une collection de bonhommes, avec la figure tutélaire de Marcel Duhamel, ça a un petit peu écrasé les collaboratrices de Marcel Duhamel qui sont là depuis le début, vraiment depuis le tout début, tout simplement parce que c'est une toute petite structure qui a au début un statut un peu particulier en plus au sein de la maison Gallimard. Donc Marcel Duhamel fonctionne avec une relative autonomie dans les toutes premières années et ça veut dire qu'il fonctionne avec peu de moyens dans un premier temps et c'est aussi ce qui explique la polyvalence de ses premières collaboratrices. Il faut qu'elles sachent tout faire.
Et puis peut-être aussi une forme de sexisme tout simplement de l'époque, c'est-à-dire que oui. On ne songe pas, on est bien content que ces femmes soient là pour faire toutes ces choses qu'elles savent très bien faire, et en même temps, on n'envisage pas vraiment de leur donner une place plus importante ou de mettre la lumière sur elles ou de les mettre en valeur. Enfin, il me semble que c'est la femme de Duhamel qui dessine qui fait le code de la couverture et qui va devenir évidemment légendaire. Ça, moi, je ne savais absolument pas. Oui. Et puis, mais c'est tout simplement des choses qui sont complètement tombées dans l'oubli. Aussi parce que quel est le besoin d'aller mettre en valeur une femme?
Oui, c'est ça. Alors, en plus, il y a beaucoup de métiers qui sont invisibles aux yeux du lectorat de l'époque et même encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne se figure pas que pour que la série noire existe, bon, les traducteurs, les traductrices, ça va. Puis on a beaucoup parlé des traductions de la série noire, mais on méconnaît complètement le rôle des agentes littéraires. Et puis effectivement, il y a cette maquette, parce que tout le monde sait, en tout cas ceux qui s'intéressent au polar, que c'est Prévert qui a l'idée du nom de la collection. En revanche, ce coup de maître quand même, qui est la maquette de la série noire, on pense pas à dire que c'est une femme qui n'a pas encore épousé à ce moment-là Marcel Duhamel. Elle deviendra sa femme quelques années plus tard, qui est une dessinatrice, graphiste. Elle est aussi un petit peu modèle, c'est une très belle femme. Et c'est elle qui lui sauve un petit peu la mise, parce que le graphiste maison, Roger Allard, propose une couverture blanche avec des petites fleurs vertes.
Et alors là, Duhamel
se dit...
Il faut une femme pour faire quelque chose un peu plus cash.
Incroyable,
quand même.
C'est complètement
Non, parce que la couverture de la NRF classique, c'est Gide qui l'avait dessinée, si mes souvenirs sont bons. Elle était quand même sobre, une sobriété qu'on retrouvera plus tard à l'édition de Minuit, par exemple.
Bien sûr.
La série noire, là, quelle était la feuille de route? On avait dit, il faut faire... faut faire noir ou faut faire tranchant, faut faire...
Il n'y avait pas de feuille de route, je pense. Alors, à mon avis, j'ai pas de documents là-dessus, mais je pense qu'il y avait quand même la volonté. On était chez Gallimard, hein, donc le standing. Je peux pas m'empêcher d'imaginer que Duhamel disait standinge un peu. voilà, mais bon, je pense pas que ce soit le cas. Il y avait quand même le standing Gallimard. Hein, il en parle plusieurs fois, et donc il fallait, je pense, rompre avec les usages un petit peu criards des collections populaires et ces couvertures illustrées. Qui faisait un petit peu populaire, justement. Donc, si feuille de route il y avait, à mon avis, c'était quand même de coller à la maison Gallimard, et peut-être que c'est pour ça que Roger Allard a trouvé que c'était adapté hein, de mettre des petites fleurs vertes, même s'il y avait eu des couvertures avec des photographies avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais là, cette couverture typo, hein, comme on dit, elle rompt avec les usages de la littérature de genre de l'époque.
Élise ?
J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez mené l'écriture de cet essai, ces recherches que vous avez faites, en commençant par justement nous faire un tableau de ce qui se passe un peu avant, c'est-à-dire cet entre-deux-guerres avec des Américaines et une influence grande entre la France et les États-Unis, des littératures qui se regardent, des influences qui se créent, et puis des auteurs américains qui viennent à Paris pour échapper à certaines choses, une liberté dans notre pays, et des femmes qui, elles, sont des pionnières. Qui sont, vous faites beaucoup de portraits et puis vous parliez des photos aussi, on voit ces femmes qui sont incroyables, enfin, elles sont toutes, moi je les ai toutes regardées, détaillées, en me disant mais soit elles ressemblent à des actrices d'Hollywood, soit elles ont des sacrées têtes, on a l'impression qu'elles vont nous
il y a Jeannine Chauveau,
à travers la page.
Honnêtement, j'aurais pas aimé prendre la droite en plein de Jeannine Chauveau. Alors,
c'est génial de voir ces visages.
Elle ressemble à Nino Ventura, je veux dire.
Donc vous expliquez que les femmes à cette période-là, qui sont agentes ou qui sont... autrices ou qui sont traductrices ou journalistes, ont un œil et puis sont des femmes qui incarnent aussi quelque chose. Oui. Et littérairement, il se passe quelque chose qui rentre aussi dans l'ADN de la série noire dès sa création et qui ensuite vont beaucoup l'aider à prospérer et à s'établir. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est ce petit rappel et ce tableau d'un paysage intellectuel et littéraire juste avant et au moment de la naissance de la série noire.
Oui, parce que même pour Duhamel, tout commence avant la Seconde Guerre mondiale, et c'est ce qui fait que lorsqu'il inaugure la collection, il est un traducteur lui-même respecté, réputé. La série noire rompt avec les usages en vigueur là aussi. Et puis, comme ce sont des métiers somme toute peu professionnalisés, il recrute avec une grande liberté. Donc, je pense que ces réseaux sont un élément clé pour comprendre comment il compose son équipe, comment il recrute les traducteurs et les traductrices, justement. Mais du coup, ça donne une grande richesse parce que, vous le disiez il y a un instant, il y en a qui sont journalistes, il y a une script girl, elles viennent de plein d'horizons, tout comme Duhamel lui-même a grenouillé dans plein de milieux artistes, bohèmes et médiatiques, et ça donne une richesse folle. Et c'est vrai que quand on voit les éléments d'archives de la série noire, certaines de ces femmes parlent série noire, en quelque sorte. Hein. Mon petit vieux, c'est vraiment... D'ailleurs... On pose parfois la question, est-ce qu'il y a des traces de sexisme dans la manière dont Marcel Duhamel s'adressait à ses collaboratrices? Bon, on a peu de traces, mais à chaque fois qu'il parle d'elle, ne serait-ce qu'à Gallimard, pour réclamer plus de moyens, plus de ceci, plus de cela, il en parle avec un grand respect. Ça, c'est vraiment des collaboratrices. C'est pas ses subordonnés. Le travail est assez collégial au sein de cette équipe.
Il y a les agentes... démarche les auteurs, enfin leurs collègues américains, les traductrices, alors dont on rigole un peu parce qu'aujourd'hui on retraduit beaucoup, la graphiste, on en a parlé, puis les femmes qu'on publie à la série noire, américaines, Lee Brackett, Dolores Hitchens, Elizabeth Sanksay Holding, Marty Holland ou Gertrude Walter, mais on aurait pu aussi bien comment contacter des Françaises. Moi, j'imagine bien, on parlait ici, il y a quelques mois, de Rachild. Quand on voit ce qu'écrit Rachild en matière de noirceur, de transgression, de violence sexuelle, sociale, elle aurait parfaitement pu faire une série noire. Elle meurt en 53 et elle publie jusqu'à la fin. Même Colette, vous imaginez une série noire écrite par Colette?
Bon, la collection reste quand même fermée aux Françaises, aux autrices de langue française jusqu'au début des années 70, hein, puisque la première, c'est Janine Oriano, et ça va être la seule hein, sur les dernières années de Duhamel. Il fait appel à des romancières. Alors, il y a aussi l'échec de la série Blême, qui lui permet
Oui, alors, qui était à une orientation de terreur fantastique. Oui. Tournée vers un public féminin, de même que l'était à la même époque la collection Angoisse du Fleuve Noir, alors que le côté Copland et so-and-so était tourné vers un public masculin.
Oui, oui. On voit très bien chez Duhamel, dans sa correspondance ou les éléments d'archives internes à la maison, il a cette espèce de... Alors, je vais dire conscience, on peut contester ça, hein, mais que le noir, c'est pour les hommes, et tout ce qui est horreur, angoisse, ce qui va donner le thriller, hein, en fait, plus psychologique, c'est plutôt pour les femmes. Bon, puis la série Blême est un échec, et on sent bien que ça ne lui coûte pas vraiment de ramener certaines de ses autrices vers la série noire. Et par ailleurs, il y a pas mal de ces femmes qui ont des pseudonymes masculins ou un petit peu androgynes. Et je ne suis pas sûre que, dès le démarrage, ils sachent que ce sont des femmes. Enfin, Marty Holland, hein, par exemple, typiquement. Donc, il y a quand même, oui, une prévention, probablement, à publier des femmes à cette époque dans des collections de polars. Surtout les Françaises, oui.
Et vous écrivez, enfin vous rappelez qu'il refuse trois titres de Vin Packer, qui est Mary Jane Meeker, autrice proche de Patricia Highsmith et pionnière du roman criminel gay. Et plus loin, vous écrivez, on ne peut que regretter un tel refus. Il est certain que s'ils avaient été acceptés, les romans de Vin Packer auraient infléchi la ligne de la collection sans pour autant trahir ce qui ont constitué le fond, l'aventure criminelle violente et la vision du monde désenchanté. Qu'est-ce qui a pu motiver ces refus? Et
là, on n'a pas d'éléments plus précis. Alors vous savez qu'on n'a pas les fameuses fiches de lecture, hein, les notes de lecture. On en a très peu, en tout cas. Et là, on aimerait bien savoir. On aimerait bien savoir ce qui a été mis en avant, parce que par ailleurs, il publie certaines américaines en particulier qui écrivent aussi comme des hommes, qui ont... Alors, bien sûr, hein, je pense que quelqu'un qui ne saurait pas si c'est un homme ou une femme à la plume ne serait peut-être pas capable de dire que c'est une femme. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu transgressif dans leur manière d'aborder les codes du genre, enfin générique, je veux dire, et un certain regard porté sur la violence. Ce sont des romans brutaux, mais qui souvent manifestent une sorte de petite distance critique, enfin un recul critique vis-à-vis de cette violence constitutive de la société américaine.
Il y a quelqu'un que notre ami Duhamel aurait pu et a raté, c'est Shirley Jackson.
Oui, absolument.
Parce que là, il avait un très grand écrivain, grand écrivain noir, un peu, enfin, cela mais dit, la série Blême plutôt.
Oui, mais même dans le noir, d'ailleurs, il publie très peu des romans de ces femmes, et on ne sait pas pourquoi, il y en a qui refusent, qui sont excellents. Et comme on n'a pas les fameuses notes de lecture, on ne sait pas pourquoi il a voulu tel roman et pas tel autre.
Aurélien Masson, vous avez une Shirley Jackson à la française sous le coude, pour
non,
plomb.
J'ai rien à dire, ça m'intéresse.
Élise, pour conclure.
Comment est-ce que vous avez travaillé? Parce que le l'essai se termine sur une galerie de portraits que moi j'ai trouvé extrêmement nourrissante pour ma curiosité et mon envie de lire. C'est-à-dire que je connais finalement très peu de ces pionnières, de ces femmes qui ont été publiées dans les premières années de la série noire. Et vous donnez extrêmement envie de les lire. Et puis vous faites des portraits d'elles qui sont quand même des femmes assez spectaculairement intelligente et brillante. Enfin, je pense que chaque mot que vous dites sur les textes qu'elles ont écrits, les livres sont phénoménaux. On a envie de lire.
Là, pour le coup, c'est plutôt Benoît Tadier qui s'est chargé. Il est américaniste, hein, donc il connaissait très très bien ses autrices pour la plupart. Et effectivement, moi, j'encourage tout le monde à les lire. Alors parfois, il faut fouiller, il faut chiner pour les trouver. Mais il y a quand même la série des classiques. Et cette année, Stéphanie Delestrée a réédité certaines de ces femmes, pas forcément celles exclusivement qui sont dans le bouquin. Et c'est incroyable, c'est des romans très différents et tous à découvrir.
Natacha Levet, Benoît Tadier, Les femmes de la série noire, en série noire, Gallimard, bien évidemment. Voilà, un vieux truc soldé, c'était Laurent Polleret, admirable, admirable. Chronique maintenant d'un mauvais genre, commence avec vous, Esther Teilhard et Robert Mouzil.
Mauvais genre, laissez-moi vous pervertir, vous abêtir, vous élever, avec Robert Mouzil. Un petit essai trop pelu, et Dieu sait que beaucoup d'entre vous s'y reconnaîtraient. De la bêtise, ou qu'est-ce qu'un con et pourquoi en êtes-vous un, très certainement. On connaît de Musil les désarrois de l'élève Turles, l'homme sans qualité, mais son éloge de la bêtise reste encore méconnu. Éloge ou critique, les deux vont de pair. C'est 50 pages de beurre fondu, avec en premier lieu cet affreux postulat. Quand on est con, on est con. Quand on est intelligent, on est con, car assez vain pour le croire. Et si l'on doute, on est fini. Le genre humain, chers auditeurs, est menacé de bêtises imminentes. C'est bien sa tragédie, la vôtre. Qu'est-ce que la bêtise sinon l'assurance de retrouver vos amis en enfer ? Elle est là. Elle vous guette. Elle a cela de net qu'elle s'infiltre dans chaque strate de la société, qu'elle est politique, comme vous, sujette à la grande histoire et à ses mutations. Le lent pourrissement du monde, dont Musil dessine si bien les traits dans L'homme sans qualité, commence par une connerie, une énorme bourde prononcée par un vaniteux. Mais il n'y a pas que l'arrogant qui soit contaminé. Les profils types des gros débiles seraient les inquiets. Et même certains mélancoliques. Musil mêle de près l'état de panique à celui de bêtise. Le con serait semblable à l'insecte affolé qui se cogne contre les vitres. Le con est un homme englué dans sa vie, ses affaires, sa bourgeoise, ses doutes et ses échecs. Le con est touchant car il est incapable, et que son inertie se déguise en progrès, en talent, en espoir. Mais il ne trompe personne. Il est seul dans son trou, et tout le monde lui ressemble. Sans doute plusieurs cons nous écoutent. J'aimerais les serrer contre moi ou leur chanter la ritournelle. J'aimerais leur dire qu'ils sont la sève, l'élan profond du corps social. Sommes-nous allés trop loin dans la bêtise ? Probablement, cher mauvais genre, bien qu'ici nous ayons fait du toujours plus en étendard. Reconnaissons à la bêtise qu'elle fricote avec le gracieux. Elle oblige ses auditeurs à la consternation et en conséquent au silence. Et être silencieux, c'est ce qu'il y a toujours de plus malin à faire. Finalement, Musil nous le dit, le dernier remède face à la bêtise, c'est l'humilité. Lisez Musil, chers amis, et méfiez-vous des dîners auxquels on vous invite. Vous êtes le con du groupe. Et moi, ce soir, je vous confie ceci pour vous réconforter. Il n'est pas une seule pensée importante dont la bêtise ne sache aussitôt faire usage. Elle peut se mouvoir dans toutes les directions et prendre tous les costumes de la vérité. C'est De la bêtise de Robert Musil, publié aujourd'hui aux très chics éditions Alia.
Merci Esther, je recommande sur la même tonalité aux éditions Alia, Les imbéciles de Papini, c'est à peu près pareil, et ma foi, C'est tout à fait percutant et agréable à lire. Élise Lépine, Les courants d'arrachement aux éditions Grasset, c'est votre premier roman, Élise. Alors, moi, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé. La première, d'abord, c'est un roman historique réussi sur une période qu'on connaît quand même assez mal dans le monde romanesque. C'est à la fois, bon, l'occupation, on la connaît, mais il y a toute la période coloniale, c'est-à-dire tout ce Maroc sous protection français, qui va au début, la fin des années 50, les années 60, gagner son indépendance. Et là, il y a tout un roman, il y a toute une sorte d'évocation de la société franco-marocaine qui est très, très passionnant puisqu'on n'a pas l'occasion de le lire. Et là, on trouve quelque chose qui fait un peu penser à l'étranger, une sorte de sociologie, d'anthropologie, de ce que peut être la France coloniale. Ça, c'est déjà tout à fait étonnant. Et puis, autre élément important, la dimension, je dirais, érotique, puisque c'est un roman des corps, c'est un roman beau, c'est plus qu'érotique d'ailleurs, c'est pas un roman pornographique, mais c'est un roman de l'érotisme permanent puisque les personnages sont incorporés et incarnés avec une violence réelle tout au long du livre. Et puis c'est une tragédie puisque le livre s'appelle Les courants d'arrachement, qui existent bien et qui sont ont cette capacité d'éloigner les gens du bord, c'est-à-dire de tout ce qui les rassure, de tout ce qui les sécurise, de là où on les attend, de là où ils ont leur vie, de les arracher, de les emmener loin et peut-être de les y noyer. Donc comment, Élise Lépine, ces trois dimensions ont-elles été mêlées ?
Vaste question.
Voilà, vous avez six minutes.
Je pense que la deuxième partie de ces trois points évoqués peut-être explique ou du moins supervise un peu les trois et puis la naissance du texte et son écriture. J'ai pas voulu faire un roman historique et j'ai pas fait beaucoup. Enfin, c'en est un parce que ça se passe dans une époque historique assez incarnée, mais j'ai pendant assez longtemps dans la rédaction fait peu de recherches sur exactement qu'est-ce qui s'était passé. D'ailleurs, ça m'a causé énormément de problèmes quand je suis arrivée au stade où le roman allait vraiment exister, où on m'a dit mais alors vraiment ça se passait comme ça, je ne sais pas du tout. Pour les bombardements par exemple sur Lisieux, sur la Normandie, pour comment ça se passait exactement sous le protectorat, surtout comment on voyageait entre la France et le Maroc quand on était français ou quand on était marocain, etc. Donc tout ça a nécessité beaucoup de recherche. Moi, c'est plutôt un roman que j'écrivais par des impressions que j'avais eues. C'est-à-dire que l'histoire m'a été très librement inspirée par ma grand-mère qui avait eu une vie comme ça, d'abord française, très pauvre, et puis ensuite...
Donc l'héroïne reine, l'héroïne, le modèle, reine, c'est votre grand-mère.
C'est un modèle tout à fait transformé, chamboulé. Elle-même était quelqu'un qui racontait son histoire en la changeant sans arrêt. Donc les anecdotes étaient toujours différentes. À un moment donné, quelqu'un était mort et avait moisi. À un autre moment donné, il était mort, mais il était tombé en poussière. Enfin bon, c'était assez spectaculaire. Et donc, à partir de ça, je me suis emparée un peu de, non pas de sa vie, parce que je la connais pas très bien, et puis parce que j'ai aucune envie d'écrire une biographie de ma grand-mère, mais en revanche, j'avais besoin de faire quelque chose des sensations, des histoires qu'elle me racontait, c'est-à-dire quelque chose d'un peu oppressant, une arrivée dans l'opulence après avoir été dans la grande pauvreté. Et en même temps, dans cette opulence qui avait été vécue à Casablanca, il y avait quelque chose de toxique, de malsain et en même temps de très jouissif. Et tout ça était, il y avait des histoires d'amour contrariées, déchirées, pas de grandes catastrophes comme j'ai pu en mettre dans le livre, mais c'est pour ça que je dis que c'est absolument pas une biographie, mais des impressions et puis un caractère que j'ai pu observer aussi de quelqu'un qui, quand moi j'étais après ma naissance, dans les années 90-2000, était traversé par des colères, par des rages, par des chagrins, par des joies, par une façon d'aimer qui était dévoratrice, de blesser, qui était terrible, et en même temps de consoler, qui était irrésistible. Et je me suis dit, mais d'où vient ce poison, en fait, et je me suis dit, il doit y avoir quelque chose dans une époque, dans des histoires, dans un chaos. Et c'est ça que j'ai eu envie de retrouver, de retracer ça. Et puis, l'idée tout simplement d'une femme qui là n'est absolument pas ma grand-mère du tout, mais qui est juste une femme qui se retrouve sur une plage au début du livre. Ça fait 5 ans qu'elle est mariée avec un homme qu'elle n'aime pas. Ça fait 5 ans qu'elle est la mère d'une enfant qui est devant elle sur la plage, dont le père est son amant, mais elle ne l'a dit à personne, et ça fait surtout 5 ans qu'elle attend le retour de cet homme qu'elle a follement aimé et qu'elle n'a pas pu épouser. Sauf que la nuit précédente, elle vient d'apprendre que cet homme était mort et qu'il ne reviendrait jamais. Et cette femme qui a toujours été quelqu'un qui se raccrochait aux branches, quoi, qu'elle soit dans la guerre, qu'elle soit d'abord qu'elle perde sa mère, qu'elle soit adoptée par des gens à la fois fascinants et inquiétants, un petit peu,
famille
quoi,
rouge.
Super, mais sortie d'un conte un peu étrange, qu'elle soit ensuite dans une maison bombardée, qu'elle perde des membres de sa famille, qu'elle soit adoptée par des gens qui sont très riches, mais dont sa tante la déteste et veut sa destruction. Elle a toujours résisté, elle a toujours trouvé une petite poche de liberté, elle a toujours trouvé une façon de faire un peu pied de nez aux autorités, au coup du sort, etc. Et là, d'un coup, quand on lui dit « ton amant ne va pas revenir », c'est le moment de sa vie où elle tombe en morceaux, où elle ne peut plus trouver la façon de faire marcher son petit moteur intérieur qui est très fort. Et donc, elle se retrouve sur ce rocher qu'on appelle le rocher des condamnés, qui est un endroit où on sait que dans cette crique un peu cachée,
donc, qui est,
c'est un rocher
on peut le situer, il existe.
N'existe absolument pas. Mais encore, les courants d'arrachement existent vraiment. Moi, quand j'ai écrit le texte, je racontais toute cette histoire d'une femme assise sur un rocher, la mer monte, et si elle monte suffisamment haut, cette femme ne pourra plus regagner la plage, parce que les courants d'arrachement vont l'emporter. Et moi, j'ai écrit tout mon livre, et à la fin, mon éditrice m'a dit, et donc ces courants, ils existent bien? Et moi, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas. Je n'en sais rien.
Le mot
et heureusement, je suis allée sur Wikipédia qui a mis, oui, il y a des courants d'arrachement. Et je me suis dit, non seulement c'est génial que ça existe, parce que sinon j'aurais pu jeter mon manuscrit à la poubelle, ou alors me battre avec des gens qui m'auraient dit, ça n'existe pas. Et puis surtout, j'avais un titre. Je me suis dit, voilà, c'est ça le titre.
Parce que c'est l'arrachement qui guide tout le livre. On commence par ces enfants, des petites filles qui voient à qui leur mère est arrachée parce qu'elle meurt en étant ébouillantée. Et ensuite, il y a une famille adoptive. Deuxième arrachement, elle est arrachée à ses enfants parce qu'ils sont juifs, ils sont arrêtés, ils sont déportés. Ensuite, il y a l'amant qui est arraché. Donc, c'est un livre en permanence sur ce sentiment de la déchirure.
Oui, c'est
une sorte de variation permanente. La vie n'est faite que de déchirures.
C'est un livre sur les déchirures et je pense sur les coutures aussi. C'est-à-dire comment, même les cicatrices en fait. C'est un livre sur le tissu cicatriciel que peut être une existence et que sont d'ailleurs la majorité des existences. C'est-à-dire de quoi sommes-nous faits ? C'est très rare qu'on soit d'une surface plane. Toutes les vies sont plus ou moins arrachées, cornées, rabibochées et mal foutues. Enfin, ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de choses. Ça nous rend fragiles, ça nous rend friables, ça nous rend un peu fous. Ça nous rend malheureux et ça nous rend plein de cicatrices. Et donc, c'est cette histoire-là qui est racontée.
Avec notamment une écriture extrêmement précise, mais qui n'est pas expressionniste. Il y a quand même toujours un léger voile, il y a une distance. On est dans la violence permanente, mais on n'est pas dans une sorte de surimpression de la violence.
Non, on est dans la sensation. Très peu de descriptions en fait, physiques ou de lieux ou de dates, mais vraiment des sensations. C'est ça qui m'anime, en fait.
Les courants d'arrachement, donc d'Élise Lépine aux éditions Grasset. Merci Sylvain Kermissi d'avoir été ce soir notre invité. Je rappelle Les Voies souterraines aux éditions Plon. Aurélien Masson,
merci
Benjamin Dierstein, et également l'éditeur de Sylvain Kermissi, et puis Natacha Levay, donc l'autrice en compagnie de Benoît Tadier de Les Femmes de la série noire. On les découvre enfin, on en est ravis, aux éditions Gallimard. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Ludovic Auger, Claire Poissignon, Claire-Martin Duguerre, Esther Théillard et François Angelier et Élise Lépine, bien évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. On sera en compagnie de Christophe Gans pour Retour à Silent Hill. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Mauvais Genre.